Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu, mise en onde ce matin par l'excellent Jean-Frédéric. On continue notre série consacrée au nucléaire. Lundi, nous avons parlé du regain d'intérêt pour l'arme atomique. Hier, nous nous sommes intéressés à la régulation internationale et aux tentatives pour empêcher la prolifération de ces armes. Aujourd'hui, on se détourne du militaire pour parler du nucléaire civil et on s'intéresse à la nouvelle star montante de cette industrie, la Chine.
Votre attention, s'il vous plaît. Le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan va être mis en service. La synchronisation se termine.
Dans la version qui est installée à Taishan, il fait 1750 MW électriques, c'est-à-dire à peu près la consommation d'une ville comme Paris. Et c'est un réacteur qui embarque toutes les innovations en matière de sûreté. Son démarrage hier à Taishan valide la technologie EPR.
Les réacteurs de la première phase du projet utilisent la technologie européenne des réacteurs pressurisés de troisième génération, les EPR. Nous avons pleinement confiance en sa sécurité et sa fiabilité, et le premier projet EPR au monde offrira des leçons et des solutions précieuses à ceux qui évoluent dans ce secteur.
En Europe, l'atome n'a pas toujours bonne presse. En effet, l'industrie du nucléaire civil est montrée du doigt par les écologistes, mais aussi plombée par des chantiers maudits comme celui de l'EPR de Flamanville, qui aurait dû être une vitrine pour la filière française. Bref, l'avenir de l'énergie nucléaire n'est pas radieux. Et tandis que la France souhaite réduire sa part dans le mix énergétique, d'autres pays, comme l'Allemagne, souhaitent même sortir du nucléaire. Aux États-Unis, on mise sur les gaz de schiste. Au Japon, la filière peine à se remettre de la catastrophe de Fukushima. Et au total, sur ce marché, où les acteurs historiques semblent être en perte de vitesse, la Chine, elle, s'impose doucement mais sûrement. Et ce n'est probablement pas un hasard si c'est à Taishan, donc on l'entendait, dans la province du Guangdong, au sud-est du pays, que le tout premier EPR au monde a été construit et couplé au réseau, c'était l'année dernière. Alors comment les autorités chinoises sont parvenues à s'imposer sur le marché mondial du nucléaire? Pourra-t-elle en devenir le leader? Les réacteurs du futur seront-ils tous made in China? Et d'ailleurs, pourrait-on en finir avec cette course au gigantisme où le nucléaire pourrait peut-être passer sur des échelles plus petites? C'est aussi des questions sur lesquelles nous nous pencherons. Pour évoquer tout cela, nous avons invité deux personnes. D'abord un historien, Félix Torres, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc historien, consultant, spécialiste de la Chine, auteur, notamment co-auteur d'un ouvrage qui était paru chez Bourin, Le chemin partagé, une histoire d'EDF en Chine, 1983-2011. Et on reviendra justement sur cette coopération, un ouvrage traduit en chinois d'ailleurs. Jacques Percebois, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, chercheur associé à la chaire économie du climat de l'Université Paris-Dauphine, co-auteur entre autres avec Jean-Pierre Hansen de Transition électrique au pluriel, ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su vous dire. C'était chez Odile Jacob, mais bien d'autres ouvrages encore. L'EPR, le réacteur européen à eau pressurisée, qu'on dit de troisième génération, avec cet objectif qui est d'améliorer la sûreté et la rentabilité économique des centrales. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on a énormément de difficultés, pour pas dire carrément des échecs, avec le chantier de Flamanville qui a multiplié les problèmes, qui aurait dû être lancé en 2012, qui n'est toujours pas. Il y a la Finlande aussi qui devrait peut-être entrer en service l'année prochaine. Il y a Hinkley Point en Grande-Bretagne. Le chantier, lui, vient tout juste de rentrer en construction. Comment la Chine est parvenue, ce tour de force, à démarrer le premier EPR au monde? Et qu'est-ce que ça vous semble dire des efforts qui sont déployés par les autorités chinoises en la matière? Allez, on va commencer avec vous, Jacques Percebois.
Alors tout d'abord, les deux réacteurs de Taishan sont entrés en service, puisque le deuxième maintenant est entré en service. Alors il faut dire que les Chinois ont continué à faire des réacteurs en permanence, ils ont gardé la main. Et il faut savoir que les réacteurs de Taishan sont des réacteurs franco-chinois, parce que EDF, c'est une technologie française, hein, même si EDF n'a que 30% du capital de la société, c'est bien des réacteurs franco-chinois. Alors je crois que la compétence en Chine est très très bonne, ils n'ont pas arrêté de faire des réacteurs nucléaires, parce parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'électricité, ce qui n'est pas le cas en France, où pendant une certaine période, on n'a plus rien construit. Et donc le fait qu'on a perdu un peu la main sur le plan technique explique un peu les déboires du réacteur de Flamanville. Alors il faut aussi rappeler que Flamanville, c'est le premier prototype. Donc si vous voulez, c'est la tête de série. Les têtes de série, ça prend toujours du retard. Donc d'une certaine façon, Taishan a profité un peu des erreurs de Flamanville. Mais il faut dire aussi qu'en Finlande, ça n'a pas été beaucoup mieux avec Areva. Et là aussi, il y a eu un certain nombre de difficultés. Ceci étant, les réacteurs troisième génération ont beaucoup d'avenir. Il n'y a pas que l'EPR, il y a des concurrents américains qui rencontrent parfois aussi des difficultés. L'explication chinoise, c'est que, eh bien, ils sont très, très opérationnels parce qu'ils sont très performants, ils construisent énormément de réacteurs. Il y a 11 réacteurs en construction à l'heure actuelle en Chine. Il y en a même 20 prévus. À l'heure actuelle, il y en a 11 en construction, ils en ont 46. C'est-à-dire que quand ils auront construit cela, ils en auront 57. C'est-à-dire quasiment autant que la France, qui en a 58.
C'est le pays au monde où il y a le plus de construction de centrales nucléaires. Félix Torres, sur ce tour de force des Chinois qu'ils ont parvenu à brancher le premier EPR au monde, c'est quand même pas rien. Ils ont mis quoi, une dizaine d'années. Je crois que le chantier a commencé en octobre 2009, donc voilà, c'est à peu près ça, c'est 10 ans. C'est quand même très peu. Qu'est-ce que ça nous révèle des efforts des autorités chinoises en la matière? Et puis peut-être qu'on pourrait revenir aussi sur les raisons qui ont poussé les autorités chinoises à choisir l'EPR, à choisir le français.
Alors oui, je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Ouais. C'est-à-dire la Chine s'est mise dans le nucléaire à partir des années 80 à peu près, avec notamment le réacteur de Daya Bay, construit par les Français et les Anglais à côté de Hong Kong, au nord de Hong Kong. Mais je crois que ce serait une erreur de dire qu'il y a que du néo-français en Chine. Le réacteur de Daya Bay, ceux de Lingao et ensuite celui de Taishan, l'EPR. Je crois que la Chine, une des constantes de la Chine, c'est que depuis qu'elle s'est mise dans le nucléaire dans les années 80, elle a mis plein d'œufs dans des paniers différents. Elle a fait du PWR purement chinois à Xinjiang, elle a fait du PWR à la française, du pressurisé à la française à Daya Bay, elle a fait du VVER russe au nord de la Chine, elle a fait du Candu, c'est-à-dire des réacteurs aux lourdes canadiens, etc., etc. Et elle a, et notamment quand il a fallu basculer sur la troisième génération dans les années 2000, elle a choisi l'AP1000 de Westinghouse, et on oublie toujours de dire que l'AP1000 a démarré un peu plus de trois mois avant le PR. Donc la stratégie de la Chine, c'est dire on fait du nucléaire, à pas compter, mais surtout on ne s'enferme jamais dans une seule filière.
On reviendra sur l'histoire de cette coopération franco-chinoise, donc n'en disons pas trop tout de suite, Félix Torres. Je reviens sur ma question. Pourquoi, il y a 10 ans, la Chine décide de se lancer dans cette aventure de l'EPR?
Je crois que au-delà de l'EPR, la Chine fait du nucléaire comme les économies développées le font, c'est-à-dire elle a d'immenses besoins d'énergie, puisqu'elle a une croissance entre 6 et 10%, 10-12% depuis une quinzaine d'années à peu près, la haute croissance chinoise, et cette croissance se concentre, pour aller vite, dans les côtes, dans les provinces côtières, c'est-à-dire le Guangdong, le Jiangsu, le Zhejiang, etc. C'est-à-dire là où on est loin des montagnes, loin des barrages, et loin relativement des mines de charbon. Et donc la volonté de la Chine quand elle construit des centrales nucléaires, c'est d'abord sur les provinces côtières qui sont les plus dynamiques. Celle de Daya Bay, c'est classique, elle était destinée à alimenter le Guangdong et Hong Kong. Donc clairement, la Chine fait du nucléaire comme une énergie d'appoint, a quand même, ce qu'il faut quand même dire, un mix énergétique très déséquilibré, puisque la Chine, c'est quand même 70% de l'électricité qui vient du charbon.
Le nucléaire, c'est à peu près 4% du mix énergétique chinois. Sur cette centrale en particulier, c'est à peu près 5 millions d'habitants, et ça veut dire que la Chine va éviter de brûler 8 millions de tonnes de charbon. Donc c'est aussi ça, Jacques Percebois, qu'il faut garder en tête, c'est que si la Chine développe autant son nucléaire, c'est parce qu'elle fait des économies sur le charbon, et que donc elle fait des économies d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi cette contrainte-là qu'il faut faire rentrer dans l'équation, Jacques Percebois.
Oui, absolument. Alors, il faut avoir deux choses en tête. La première, c'est que la demande d'électricité, comme la demande d'énergie, est extrêmement élevée en Chine. L'année dernière, le rythme de croissance de la demande d'électricité, c'était 8,5%. C'est énorme. Faut savoir que, là, par exemple, en variation, le supplément de consommation des Chinois l'an dernier, c'est l'équivalent de la consommation française d'électricité chaque année. Donc, si vous voulez, le supplément. Hein. Bon, donc les Chinois consomment énormément d'électricité et ils veulent développer les usages électriques, notamment avec le véhicule électrique et tous les usages électriques. La deuxième chose, c'est qu'ils font feu de tout bois. Ils sont obligés de faire à la fois de l'hydraulique, du renouvelable solaire, éolien, du gaz et du nucléaire, parce que même si le nucléaire ne représente que 4%, 3,9, 4% de la consommation d'électricité, pourquoi ? Parce que, eh bien, ils veulent sortir un peu du charbon. Alors aujourd'hui, en effet, on est à 70% de charbon. Ils construisent encore des centrales à charbon. Il est faux de dire que la Chine abandonne ses centrales au charbon. Ils construisent d'ailleurs des centrales.
Ils les déplacent même.
Le problème, c'est pas un problème d'effet de serre, c'est un problème de pollution dans les villes. Parce que les centrales à charbon, les mines de charbon sont très proches des grandes agglomérations, et donc c'est plus un problème de pollution. Alors en même temps, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Ils veulent réduire la part du charbon, mais ça va être très difficile.
Mais il y a aussi une question de dépendance au charbon, c'est qu'il faut le faire venir ce charbon.
Oh, ils en ont beaucoup quand
ils
même.
Ont beaucoup, hein, ils en font beaucoup venir,
mais,
notamment
oui,
d'Australie.
Mais ils en ont quand même.
Je repose la question que je posais tout à l'heure à Félix Torres sur la raison pour laquelle les autorités chinoises ont choisi l'EPR. Parce que vous nous le disiez, Félix Torres, les Chinois ne travaillent pas seulement avec les Français, ils travaillent aussi avec les États-Unis, ils travaillent avec le Canada, ils travaillent avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on choisit l'EPR, pourquoi est-ce qu'on choisit français, et est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Et notamment, par exemple, tout à fait au hasard, la question de l'uranium. On sait que Areva est un acteur central qui est en capacité de vous proposer beaucoup d'uranium. Est-ce que ça, ça fait pas aussi partie du deal, d'une certaine manière?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'ils regardent toutes les technologies. Ça, c'est la méthode chinoise. On fait toutes les technologies, la technologie russe, l'AP1000 Westinghouse, le système français, et puis ensuite on choisit le réacteur qui convient le mieux et on fait le réacteur chinois, qui demain essaie de le vendre aux autres. Mmh. Alors deuxième chose, pourquoi ils ont choisi français? Parce que la France est en pointe dans le domaine du nucléaire. La France est en pointe parce qu'en plus, non seulement on construit les centrales, mais dans le cycle de l'uranium, on fait du retraitement recyclage, ce que veut la Chine. La Chine veut faire du retraitement recyclage, c'est-à-dire récupérer le combustible à la sortie, récupérer les déchets pour refaire du combustible. Donc ils sont très très intéressés par le système français, et la France est en pointe dans le domaine du retraitement recyclage. Mais n'oublions pas que les États-Unis avaient cette technologie, mais ils ont refusé de continuer à faire le cycle, qu'on appelle le cycle fermé. Et donc, la France, et puis alors, il y a une arrière-pensée, c'est en faisant de la coopération avec la France, on peut essayer de vendre, c'est le cas en Angleterre, des réacteurs à la fois faits par les Français et par les Chinois, et puis demain, les Chinois vendront, c'est l'objectif, ils vendront le fameux Dragon, le Hualong, ils le vendront tout seul en Angleterre. Donc, c'est pénétré un peu sur le marché européen.
La France est en pointe. Est-ce qu'elle va le rester? Astrid, qui est le nom d'un projet de prototype de réacteur nucléaire qu'on dit de quatrième génération, porté par le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, il aurait dû être construit sur le site nucléaire de Marcoule. Je dis il aurait dit parce qu'on a décidé, c'était il n'y a pas si longtemps, de suspendre justement ce prototype. Et c'est d'ailleurs une information qui a été confirmée il y a quelques jours par le ministère de la Transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les raisons de cette suspension et nous dire si c'est grave, docteur, vous disiez là que la France est en pointe, est-ce que dans 10 ans ou 20 ans, la France sera encore en pointe ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que précisément d'autres acteurs, et notamment évidemment la Chine, les dépassent parce que eux, leurs efforts en matière de R&D sont conséquents?
Alors je pense que c'est une faute. C'est même une grave erreur qui a été faite par la France d'abandonner un domaine où nous étions leaders. Il faut savoir que la quatrième génération, il y a un saut technologique entre la troisième et la quatrième génération. La troisième génération, qu'on appelle l'EPR, si vous voulez, ou l'équivalent de l'EPR, en fait, c'est une génération 2 bis. C'est du 2 amélioré, pour faire simple. On dit ça troisième génération. Par contre, quand on passe à la quatrième génération, on a affaire à ce qu'on appelle les surgénérateurs. Alors, qu'est-ce qui caractérise les surgénérateurs? Trois choses. La première, c'est qu'on utilise mieux le combustible uranium. Il faut savoir que dans l'uranium naturel, vous avez 0,7% seulement qui est fissile. 99,3% n'est pas fissile. Seul l'uranium-235 est fissile, l'uranium-238 ne l'est pas. L'avantage de l'EPR, c'est que de quatrième génération, à différence des autres, y compris l'EPR, c'est qu'on peut utiliser très bien l'uranium-238. D'ailleurs, quand on a commencé la quatrième génération, c'était dans l'objectif d'essayer de ne pas être trop tributaire des réserves d'uranium, parce qu'à l'époque, la demande d'uranium était très forte du fait des grands programmes nucléaires. Le problème ne se pose plus aujourd'hui. Le prix de l'uranium est très bas, il y a de l'uranium partout, donc il n'y a pas de contrainte au niveau du marché de l'uranium. Mais il y a d'autres avantages de la quatrième génération. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'utiliser le plutonium, qui est un déchet normalement, comme combustible. Et ça, c'est très important, parce que le surgénérateur peut même, je dirais, fonctionner en mode sous-génération, c'est-à-dire, voilà, il brûle plus de plutonium qu'il n'en produit. produit. Parce que, si vous voulez, le surgénérateur fait qu'on produit plus de plutonium à la sortie qu'on en consomme. Mais on peut éventuellement en consommer plus qu'on en produit. Et le troisième avantage, qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet peut-être de transmuter certains actinides mineurs, l'américium, le neptunium et le curium c'est en débat, mais ça permet, si vous voulez, de transformer des déchets à vie longue en déchets peut-être plus facilement gérables. Et ça, c'est une erreur d'avoir abandonné ça.
Félix Torres, est-ce que vous partagez cette opinion selon laquelle c'est une erreur de la France d'avoir suspendu ce projet? Et je réintroduis ma question qui était celle de savoir si, pour la Chine, c'est pas une opportunité. C'est-à-dire que, précisément, ce saut technologique qui ne va pas être fait par la France, est-ce que la Chine, elle, serait en capacité de le réaliser et donc se placer en leader mondial dans les décennies à venir?
La Chine, depuis les années 90, sinise la technologie nucléaire, 20%, 30%, 40%. Pour l'anecdote à Lingao, Dayabé, quand les Français ont dit on va faire un Dayabé 2, les Chinois ont dit on va l'appeler Lingao 1. C'est-à-dire, on va faire du chinois. Et tous les documents sur Lingao 1 étaient en chinois. Donc les ingénieurs français qui ont travaillé sur Lingao 1 ont dû apprendre le chinois. Donc la volonté de la Chine, c'est comme la volonté de la France sous Pompidou et Giscard. La France voulait franciser la technologie américaine. Les Chinois veulent siniser les technologies occidentales, ce qu'ils font avec la P1000 de Westinghouse, dont ils ont acheté la licence. Sachant qu'une petite réserve sur l'EPR, c'est que la licence de l'EPR hors de Chine, c'est Areva qui l'a. Donc il y a un peu un fil à la patte. Donc les Chinois veulent mettre en leur domaine. Donc ils poussent activement leur réacteur chinois, purement chinois, le Hualong. Donc je crois que le but de la Chine, elle est, oui, mettre plein d'œufs dans des paniers différents, mais surtout avoir des technologies qu'elle maîtrise complètement de A à Z.
Est-ce qu'elle est en capacité de développer des réacteurs de quatrième génération, la Chine?
Elle commence avec un réacteur rapide. La question, elle est, la fameuse centrale de retraitement du combustible arriva au Rano aujourd'hui à Yibing. Ça fait 10 ans que les Français négocient. Avec beaucoup d'exigences, moi je trouve personnellement un petit peu exagérées. Et on approche du point de non-retour où les Chinois vont dire, bah, écoutez, messieurs les Français, tant pis pour vous, on va faire ça tout seul. Donc aujourd'hui, la Chine est de plus en plus en capacité d'être totalement autonome en termes nucléaires. Et donc, arrêtons un petit peu le cocorico français en disant c'est des technologies d'origine française. La Chine est en train, français ou pas,
de s'émanciper.
De s'émanciper, elle l'est déjà, hein, à 100% ou à 110%. Donc ça pose une question de l'avenir du nucléaire français. Pour moi, le nucléaire français a un avenir à condition qu'il se mette dans le sillage du nucléaire chinois.
Donc en fait, l'industrie nucléaire chinoise pourrait être le fossoyeur de notre belle industrie nucléaire française.
Ah non, pas du tout. Non, d'abord, je crois qu'il faut arrêter de dire
quand c'est les Chinois s'émancipent et que nous avons besoin des Chinois.
Non, c'est-à-dire consister à dire nous on a le droit de faire de l'industrie nucléaire et de prendre les licences à d'autres, mais pas les un pays en voie de développement comme la Chine. Non, ça n'a rien à voir. Non, la Chine développe son énergie. D'abord, la Chine a un immense programme, donc il y a la place pour tout le monde, notamment pour les technologies d'origine française. Mais je crois que à partir d'un moment donné, c'est la Chine qui a le lead. C'est la Chine qui a le savoir-faire. L'EPR, elle le construit à Taishan. Donc elle est capable de faire de l'EPR et d'en faire ailleurs. À partir de ce moment-là, le choix pour l'industrie française, il est, on reste dans notre précaré et on laisse les Chinois faire. Ou alors on dit, on travaille avec les Chinois, on a des sous-traitants, on a des technologies françaises que les Chinois ont besoin, parce que le nucléaire, c'est très complexe, c'est très varié. Et donc, on se met dans le sillage du train chinois. Mais je crois qu'il faut pas du tout le voir en disant, c'est nous, la Chine,
ouais. Et on va la rentrer locomotive à changer. La locomotive a changé.
Sans issue.
Jacques Percebois, quelque chose à ajouter avant qu'on refasse une petite perspective historique avec Félix Torres?
Je reviens sur la quatrième génération. En fait, il y a eu 20 réacteurs de quatrième génération, mais des prototypes, si vous voulez. La France en a fait 3. Hein. Il y a eu plusieurs Phoenix, Super Phoenix, Rhapsody au départ. Donc il y avait Astrid qu'on vient d'abandonner, mais la Russie en fait. D'ailleurs, il est opérationnel en Russie, il fonctionne. C'est là où ça fonctionne le mieux. La Chine en a 2 en construction qui sont en type expérimental. L'Inde s'y intéresse, le Brésil s'y intéresse. Il y a beaucoup de pays qui s'y intéressent. L'Angleterre s'y intéresse. On peut regretter que la France ne le fasse pas, parce que ça va avoir comme conséquence, eh bien, de modifier la gestion des déchets nucléaires. Il y a des solutions qu'on n'aura pas à notre disposition. J'ajoute que, bien sûr, il y aura d'autres technologies qui pourront apparaître demain, notamment les petits réacteurs, d'autres réacteurs, c'est possible. Mais en n'investissant pas là, on prend du retard. Et dans le domaine scientifique, chacun sait que si vous abandonnez pendant quelque temps une filière, le retour dans le domaine scientifique est extrêmement difficile et coûteux.
Félix Torres, vous avez signé Le chemin partagé, une histoire d'EDF en Chine, 1983-2011. 1983, c'est justement l'année d'une visite officielle de François Mitterrand en Chine, souvenez-vous.
Pour ce qui concerne le nucléaire, Sans vouloir annoncer des mesures prématurées, il semble bien que la Chine désire vivement faire appel à la technique française. Je vous signale même, j'ai une note là sous les yeux, que dès ce soir, parmi les accords qui seront signés en ma présence, il y aura un mémorandum sur les îlots nucléaires et un accord sur la livraison du matériel de télévision ainsi que les émissions en français.
Voilà, François Mitterrand, on est le 5 mai 1983, Félix Torres. L'ouverture de la première centrale, c'est le début des années 80, Dayabé. On va essayer de comprendre comment justement la France accompagne la Chine pour et contribue à l'émergence de cette industrie nucléaire. Cette coopération franco-chinoise, elle est d'abord décidée, souhaitée par un certain Deng Xiaoping. Alors là, à ce moment-là, en 83, il est le chef d'État, mais en réalité, c'est une ambition qu'il avait déjà avant d'arriver au sommet de l'État. Vous racontez ça dans un de vos articles.
Oui, les Chinois ont fait appel à EDF pour Dayabé, mais je me répète, ils ont aussi fait appel à d'autres techniques canadiennes, russes. Donc, attention, ne pensons pas que le monde tourne autour de la France, dans le nucléaire ou ailleurs. Donc, il faut appel
à
la
première coopération, c'est avec la France, n'est-ce pas?
Non, ça, c'est une chance, c'est un pressurisé autonome chinois. Moins puissant que Dayabé. Donc, il commence avec la France pour une raison très simple.
La première coopération avec un pays étranger, Félix Torres, c'est avec la France?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Ça commence avec la Russie, en fait.
Ça commence avec la Russie.
Non, pas tout à fait. La Chine est un pays pluriel, c'est un immense pays, et notamment une des différences du nucléaire chinois que le nucléaire français ou d'autres, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a le Nord et le Sud. Dans le Nord, vous avez CNN, qui est un acteur d'État au départ, qui était le CEA local, si vous voulez, pour aller très vite. Et vous avez au Sud CGN, Guangdong Nuclear Power, qui est le constructeur chinois qui a fait Dayabé avec les Français. Et qui a développé à partir de Dayabé, Lingao. Ils ont pris comme modèle la centrale française de Gravelines, 900 MW. Et ce qu'on ne dit pas, parce que l'EPR c'est beau, mais les réacteurs les plus nombreux en Chine, ce sont les CPR-1000, qui sont des réacteurs dérivés de Dayabé Lingao, qui sont les réacteurs de deuxième génération bis, si vous voulez. Qui sont la filière, on va dire, franco-française du Sud. Mais à partir d'une fois qu'on a dit ça, la volonté chinoise a toujours été de s'émanciper, de siniser les techniques françaises. Donc, l'erreur qu'on fait, moi, je suis allé à Dayabé plusieurs fois. J'ai eu Dayabé et je m'attendais à voir une centrale française, j'ai vu une centrale chinoise. C'est-à-dire que ce sont des centrales chinoises dans lesquelles la technologie au départ est française, les matériaux sont en partie français, mais les Chinois n'ont eu de cesse de le siniser. À partir de là, une fois que la Chine a 100%, s'utiliser ces matériels, qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis, il faut continuer à travailler avec la Chine.
Félix Torres, j'entends parfaitement, je vois que dès que je vous demande ce que la France a fait pour participer à l'émergence, à la montée en puissance de l'industrie chinoise, vous me dites qu'il n'y a pas que la France et que par ailleurs il y a un effort de sinisation, mais j'aimerais quand même, si vous le voulez bien, Félix Torres, que vous nous disiez ce que la France a fait très concrètement. Pourquoi à un moment Deng Xiaoping mise sur la France? Il aurait pu ne pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il cherche dans cette coopération avec la France?
Il y a la technologie du pressurisé que la France est en train de faire. La France construit son grand programme nucléaire à marche forcée, de façon très réussie. Donc, clairement, la puissance en pointe de l'époque, c'est la France. Donc, les Chinois disent, on veut une technologie américaine francisée. La deuxième chose, ce qu'ils veulent, c'est l'expertise d'EDF. L'électricien EDF. C'est-à-dire qu'EDF, c'est l'électricien qui fait marcher les centrales. Et en Chine, ce sont les gens qui construisent les centrales, ce sont aussi les gens qui produisent l'électricité. CNNC, CGN sont des producteurs d'électricité. CGN en particulier, vous voyez, a construit toute sa fortune et sa puissance sur le courant qu'ils ont produit à Dayabé et à Lingao. Et désormais, ils ont remboursé tous les prêts nécessaires pour la construction des centrales grâce à la vente d'électricité.
Félix Torres,
donc c'est le modèle EDF qui intéressait la Chine.
Je veux aussi, Félix Torres, que vous nous rappeliez les liens de Deng Xiaoping avec la France. C'est peut-être pas tout à fait un hasard.
Alors, si vous voulez,
à tout prix, voilà, merci.
Deng Xiaoping, quand il était jeune, est venu jeune ouvrier révolutionnaire.
Alors, vous êtes historien, Félix Torres.
Pour la petite histoire, il dormait dans un hôtel à côté de la place d'Italie quand il est venu en 114 visiter la France à 5h du matin dans une limousine noire. Sa fille le raconte. Il a cherché en vain l'hôtel où, jeune étudiant, il buvait du rouge et en particulier, c'est pas parce qu'il aimait beaucoup le vin rouge, qu'il a mis, à la fin des années 70, la Chine sur la trajectoire du vin rouge pour éviter qu'elle boive du Baotai, c'est-à-dire un alcool un peu raide. Donc, il y a un tropisme chinois, un tropisme français de Deng Xiaoping, mais la première visite qu'il fait quand il revient au pouvoir, excusez-moi, c'est aux États-Unis, visiter Boeing.
Ah, mais j'aimais bien cette petite histoire quand même que vous racontez. Il y a quand même j'ai cherché pour préparer cette émission, justement, des extraits de cette vidéo d'Deng Xiaoping en visite en France que je n'ai pas trouvé. Vous, dans votre papier, vous avez précisément un certain nombre de photos qui illustrent cette visite de Deng Xiaoping. Fallait quand même nous en faire un peu profiter.
Si je puis me permettre, il y a aussi une visée géopolitique de Deng Xiaoping, puisqu'une partie des capitaux qui ont fait Dalabé, c'était les capitaux de Hong Kong. Et donc, ça permettait, au moment où Hong Kong allait revenir à la mère patrie chinoise, ça permettait d'arrimer économiquement et énergétiquement Hong Kong à la Chine, la République populaire de Chine. Donc, la stratégie de Deng Xiaoping à Dalabé était une stratégie extrêmement habile et extrêmement complexe.
Alors, revenons au temps présent, et puis ensuite je passerai la parole à Jacques Percebois. Maintenant, c'est plus Deng Xiaoping, c'est Xi Jinping. Est-ce que Xi Jinping a marqué une rupture, au moins une évolution, dans la conception que l'on a de nucléaire en Chine? Est-ce que les programmes nucléaires ont changé à partir de l'arrivée de Xi Jinping en 2013?
Il faut bien voir que le nucléaire chinois a toujours avancé par saccades. Il y a eu un premier arrêt à un moment de la crise asiatique au tournant des années 2000, et il y a eu un deuxième arrêt à Fukushima. Et Fukushima a gelé tous les le gouvernement chinois, que ce soit le prédécesseur de Xi Jinping, a gelé tout le démarrage des centrales pour que toutes les normes de sécurité soient revues, pour qu'on réanalyse tout. Et donc le programme chinois redémarre, mais à une vitesse lente, et il y aura souvent un coup d'accélérateur. Est-ce qu'il y a une différence de la stratégie de Xi Jinping en matière nucléaire de celle de Hu Jintao? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que les acteurs sont en place, les technologies sont en place. La Chine va faire des centrales nucléaires, voilà.
Jacques Percebois, vous êtes d'accord? Pas de rupture avec Xi Jinping, mais simplement une évolution de l'environnement, et donc...
Oui, absolument. Il n'y a pas de rupture. Il faut aussi tenir compte du fait que même si la croissance de la demande d'énergie est relativement forte, en particulier sur l'électricité, elle a tendance aussi à se stabiliser par rapport à ce qu'elle fut, parce qu'on disait tout à l'heure 8,5, c'est énorme, mais il y a une époque, c'était 15%. Donc, si vous voulez, ils ont revu un peu à la baisse le programme nucléaire, parce que la demande augmente un peu moins vite qu'elle augmente. Il faut savoir d'ailleurs qu'un des problèmes du nucléaire en Europe ou même aux États-Unis, alors en Europe en particulier, c'est que la demande d'électricité est relativement stable. Ce n'est pas le seul facteur, hein, mais on n'a pas des besoins comme on en avait dans le passé.
Est-ce que c'est par exemple ceci qui a provoqué la faillite d'un acteur américain de poids, à savoir Westinghouse? On est en mars 2017, c'est une entreprise très ancienne qui avait été fondée en 1886, qui était passée sous pavillon, c'est vrai, japonais en l'occurrence Toshiba en 2006, mais quand l'américain Westinghouse fait faillite, qu'il dépose le bilan, c'est précisément parce que aux États-Unis, finalement, il n'y a plus de croissance de la demande.
Alors, aux États-Unis, la croissance de la demande d'électricité est encore présente, même si elle est modeste, mais il y a un élément nouveau qui va apparaître et qui va être l'élément clé par rapport au nucléaire, c'est la baisse du prix du gaz. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est essentiellement le gaz qui, en quelque sorte, a un peu tué le nucléaire. Là où on prévoyait beaucoup de centrales nucléaires, le fait que le prix du gaz est extrêmement bas fait que toutes les centrales électriques sont des centrales à gaz. Elles ont même tendance à obliger à fermer des centrales au charbon. Hein, aujourd'hui, on dit que les États-Unis émettent moins de CO2 à cause dans la production d'électricité. C'est pas parce qu'ils ferment des centrales au charbon pour des raisons politiques. Ils les ferment parce que le gaz est moins cher que le charbon. Et le gaz, je dirais, les centrales à gaz permettent de faire de l'électricité moins chère que les centrales nucléaires. Donc, en effet, Westinghouse, qui a été racheté par Toshiba, en fait, quand on parle de faillite, il s'est mis sous le chapitre 11 de la loi américaine.
D'un tribunal de New York.
Voilà, très bien. Donc ça veut dire que, en fait, à l'heure actuelle, il y a, je dirais, un fonds d'investissement canadien qui s'intéresse à Westinghouse. Donc Westinghouse, c'est pas fini.
Mais c'est pas fait non plus.
Ils ont eu quelques difficultés aussi avec la P1000 aux États-Unis. Donc il y a eu quelques difficultés sur quelques réacteurs. Les perspectives sont moins encourageantes pour les raisons que j'ai évoquées. Ouais. Et donc Westinghouse Toshiba a connu des problèmes. D'ailleurs, comme Hitachi, General Electric, a connu des problèmes.
Comme Areva.
comme Areva. Alors Areva, c'est encore pire, parce qu'Areva, je dirais, sauf celui qui construit, sauf l'entreprise qui construit toujours le réacteur en Finlande, les autres, j'ai été supprimé, puisqu'Areva, on est revenu à l'ancien modèle, c'est-à-dire à Orano et à Framatome.
Félix Torres.
Pour aller dans le même sens, les États-Unis ont été les premiers à construire des deux grands parcs nucléaires, General Electric au bouillant et Westinghouse au pressurisé. Ils arrêtent de faire du nucléaire avant même l'accident de Three Mile Island en 78. Dès le milieu des années 70, il y a des études économiques américaines qui disent que le nucléaire, ça n'est plus rentable. Donc ils ont un parc qu'ils font tourner, bien sûr, mais ils arrêtent d'en faire. Parce qu'il y a le contre-choc pétrolier, parce qu'il y a le gaz. Et il y a un frémissement en faveur du nucléaire dans les années 2000. Il y a des centrales, deux ou trois centrales sont en train d'être construites en Géorgie. Et arrive le gaz, comme vous disiez, le gaz de schiste, le shale gas, qui tue... L'Amérique, elle ne connaît que le prix de revient, qui tue complètement toute renaissance du nucléaire. Donc le nucléaire se retrouve aux États-Unis, mais aussi ailleurs, notamment partout dans le monde, ce qu'on a appelé l'hiver du nucléaire. C'est-à-dire, c'est plus rentable. Et alors, une entreprise qui a des problèmes, c'est Framatome. Framatome, une fois que le programme nucléaire français est fait, et c'est pour ça que Framatome a été fondu dans Areva autour des années 2000, c'est que Framatome, à la fin des années 80, n'a plus de contrat. Donc la question elle est, on peut pas être les déboires de Westinghouse, on peut pas être seulement un fabricant de centrales nucléaires. Il faut avoir plusieurs talents, il faut être aussi producteur d'électricité. Sinon, le marché nucléaire n'est pas suffisant pour faire vivre des fabricants de centrales.
Il y a l'environnement énergétique que vous avez décrit, Jacques Percebois, avec des évolutions évidemment importantes qui vont avoir des impacts sur l'industrie du nucléaire. Mais il y a aussi un environnement libéral plus général qui dépasse assez largement le seul secteur du nucléaire. Pendant très longtemps, le nucléaire, c'était vraiment la chasse gardée d'entreprises d'État locales, et puis progressivement les choses vont s'ouvrir, le marché de l'électricité va se libéraliser pour devenir un marché global, un marché mondialisé. Est-ce que ça aussi, ça joue sur le secteur, et comment est-ce que ça va peut-être rebattre les cartes, ou pas d'ailleurs, parce que quand on parle de libéralisation du marché de l'électricité, attention, c'est la concurrence est pleine de règles, donc allons-y.
Oui, alors indiscutablement, le nucléaire, si vous voulez, il a besoin d'une visibilité à long terme. Une centrale nucléaire aujourd'hui, c'est fait pour marcher 40 ans. En général, on peut les pousser à 50, 60 ans. L'EPR, il dure 60 ans. Les constructeurs privés, ils ont une vision à court terme. Le marché est relativement myope. Donc 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est trop loin. D'ailleurs, le nucléaire s'est développé dans la plupart des pays avec une impulsion étatique. C'est la volonté de l'État. En France, c'est indiscutable. C'est vrai en Russie. Si le nucléaire se développe aujourd'hui aussi bien en Asie qu'en Russie, qu'en Corée, que dans quelques pays comme ça, c'est parce que l'État est présent. Il faut l'intervention de l'État. Et s'il repart en Angleterre, c'est parce que l'État a décidé de faire du nucléaire et de donner un système de contrat pour différence qui garantit qu'on va acheter l'électricité nucléaire à un prix donné. Donc, si vous voulez, on a besoin de l'État. Le marché, lui, il est fluctuant. Si le prix du gaz baisse, ben on abandonne le nucléaire. Il y avait 4 réacteurs en construction, on a décidé d'en construire que 2 aux États-Unis. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 réacteurs en construction, réellement. Et donc, les entreprises privées, elles regardent le court moyen terme, elles regardent qu'est-ce qui est compétitif. Donc, elles ne vont pas se lancer dans des investissements de très long terme dont la rentabilité peut être hasardeuse. À cela s'ajoute qu'il y a une préférence pour les énergies renouvelables, même si elles sont aidées. Il y a une préférence pour les centrales qui sont rentables à court terme. C'est le cas du gaz. C'est même le cas du charbon avec la récupération du CO2 à la sortie du charbon, ce qu'on appelle le CCS. Donc, si vous voulez, la dimension économique, la libéralisation explique cela. Le programme nucléaire français...
Est-ce que ça veut dire, Jacques Percebois, que si on se projette un peu dans les années à venir, dans les décennies à venir, on peut s'attendre à ce que les acteurs qui seront demain les leaders sont des acteurs pour lesquels, évidemment, il y a des États qui sont derrière et des États qui, en matière économique, sont peut-être un peu plus dirigistes. Et alors, la question, je vais vous la poser directement. Est-ce que finalement, les leaders de l'industrie nucléaire de demain, c'est pas, un, la Chine, et deux, la Russie.
Absolument.
Deux pays particulièrement dirigistes en matière économique.
Mais d'ailleurs, prenez le cas français. L'accélération du programme électronucléaire, c'est le plan Messmer 1974, c'est une décision étatique. C'est même pas le Parlement qui décide. Le Parlement ne siégeait pas. Quand Pierre Messmer, Premier ministre, a lancé ce qu'on appelle le programme Messmer, eh bien, c'est une décision de l'exécutif. exécutif. Accélération du programme nucléaire en plein choc pétrolier. C'est une décision publique, une décision de l'État. Aujourd'hui, quel est le principal producteur d'électricité nucléaire dans le monde et qui exporte de l'électricité nucléaire partout, qui fabrique des centrales partout, dans 12 pays? C'est Rosatom, c'est les Russes. Les Russes, ils ont une excellente technologie. Dans l'esprit de beaucoup de Français, les Russes, ils pensent à Tchernobyl. Mais Rosatom, c'est le VVER, 1200, 1400, c'est des réacteurs aussi fiables que les réacteurs occidentaux. Et donc, aujourd'hui, Rosatom, c'est le principal concurrent. Il y a un projet au Brésil, par exemple. EDF est en compétition, puisqu'ils ont déjà construit 2 réacteurs. Ils veulent construire le 3e, qui est en arrêt pour l'instant. Eh bien, le concurrent, c'est un Chinois et c'est un Russe.
Félix Torres, est-ce que l'historien que vous êtes confirme, on se dirige doucement vers une forme de duopole russo-chinois ?
Oui, mais parce qu'il y a un marché mondial du nucléaire, on oublie ça en France, c'est-à-dire il y a des comme vous disiez, des centrales qui sont construites au Brésil, au Pakistan, en Roumanie, en Angleterre. Donc il y a un grand marché.
Tout ce que vous avez cité, c'est des projets chinois.
Hein. En particulier, enfin, mais pas seulement. C'est-à-dire
en Roumanie, c'est bien un réacteur chinois.
Il y a un marché global sur lequel il faudrait dire qu'historiquement la France n'a jamais su vraiment se placer. Elle termine son programme nucléaire en plein contre-choc pétrolier en 83-84, et après, bon, un peu de Corée du Sud, un peu d'Afrique du Sud, et un peu de Chine, un peu d'Arabie, c'est tout. Donc l'Iran, bon, pour des raisons politiques, ça s'arrête. Donc la France n'a jamais su prendre le virage du marché mondial du nucléaire. Aujourd'hui, il y a un marché mondial du nucléaire, il y a des appels d'offres, et là, les deux pays qui sont les mieux, c'est pas seulement parce qu'il y a l'État, c'est aussi parce qu'il y a des offres compétitives. Rosatom est particulièrement compétitif parce qu'il propose une centrale assez bon marché avec le financement avec. En package. Donc vous voyez, ils ont su trouver, on va dire, ils font un peu du low cost, mais bon, ils ont ce créneau. Les Chinois proposent un autre type de créneau, mais je pense que quelque part,
quel créneau,
les centrales un peu plus haut de gamme, ouais, par exemple des EPR, et donc par exemple en Grande-Bretagne, c'est clair que le futur du nucléaire en Grande-Bretagne, il va être chinois. Parce que clair, après la centrale qui va être construite aujourd'hui, il y en a 2 autres qui sont sur les rails. Bah c'est les Chinois, ils ont le financement, ils ont la technologie, et donc le rôle des Français...
Ils ont le financement, ils ont la technologie, quand on vous entend, on a le sentiment un peu qu'au fond, c'est un peu par défaut que la Chine s'impose. Est-ce qu'elle a réellement l'ambition, la Chine, d'avoir ses capacités exportatrices, ou au fond, elle est devenue par défaut? Elle est en train de le devenir par défaut.
Il faut voir une chose. D'abord, la Chine, elle consacre son effort, comme la France le faisait à une époque, comme les États-Unis l'ont fait, à faire son parc nucléaire et le faire fonctionner.
Donc, vous voyez, c'est sa priorité.
Elle est partie. D'abord, le parc nucléaire chinois étant derrière le parc nucléaire français. Donc, elle va les passer, mais ça va prendre du temps. Une fois qu'elle aura un immense parc de plusieurs technologies, il va falloir qu'elle le fasse tourner et bien. C'est le premier effort d'un monde plein comme la Chine. Ensuite, elle est capable, parce qu'elle en fait beaucoup de chez elle, d'en faire ailleurs. À des prix compétitifs sur des marchés, ce que la France n'a jamais su faire et ne peut plus faire, parce qu'elle est bloquée, le programme français est bloqué pour la raison que l'on sait, et l'arrêt de la 4e génération. Donc aujourd'hui, je crois que le salut de la France, c'est se mettre dans le sillage du futur leader du nucléaire.
Alors, Jacques Percebois, on va accueillir dans quelques instants Adrien Fauve parler du Kazakhstan. Donc, il y a un point sur lequel je voudrais vraiment vous entendre parce que ça me paraît important. Moi, je découvre un petit peu tout ça, mais je vois que dans ce paysage du nucléaire civil, il semble qu'il y ait une forme de regain d'intérêt pour les petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR, Small and Modular Reactors. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est. Et est-ce que ça aussi, ce secteur-là pourrait, au fond, bouleverser l'avenir du nucléaire civil tel qu'on le raconte là, c'est-à-dire avec ce duopole russo-chinois. Est-ce qu'au fond, on pourrait pas revenir à des plus petites technologies qui viendraient concurrencer comme ça ces énormes centrales nucléaires, Jacques Percebois?
Absolument. Alors c'est un créneau qui se développe. Certains considérant que faire des très grands réacteurs, pourquoi au départ c'était pour profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus c'est gros, moins ça coûte cher. Ouais. Donc, en réalité, l'expérience montre qu'il y a des technologies de petite dimension qui peuvent être très compétitives et surtout avec une sûreté passive, c'est-à-dire qui présenterait 2 avantages. La sûreté serait passive au lieu d'être une sûreté active, c'est-à-dire que le réacteur s'arrête automatiquement en cas de problème. C'est là-dessus qu'on travaille. La deuxième chose, c'est que c'est plus facile de mettre un réacteur de 200, 300, 400 mégawatts sur des petits réseaux. Sous les 1650 mégawatts, ça ne peut aller que sur des très très grands réseaux. Donc là, il y a un marché potentiel. Donc il y a beaucoup de recherche qui est faite dans ce domaine. Alors ceux qui sont en pointe, c'est les Russes. D'ailleurs, ils font même des petits réacteurs sur barge, des réacteurs de 35 mégawatts.
Qui vient d'être envoyé le 23 août dernier, cette centrale nucléaire flottante mise sur l'eau par les Russes.
Oui, c'est pour alimenter une ville en Sibérie, si vous voulez, en fait, un champ pétrolifère en Sibérie. Mais on peut faire des réacteurs de un peu plus élevés, de 100, 300 mégawatts. Donc il y a un créneau. Moi, La France s'y intéresse aussi, il y a des projets. Mais il faut, les États-Unis viennent de lancer un nouveau centre de recherche complètement axé sur les small modular reactors.
Ils viennent de certifier d'ailleurs, je crois.
Absolument, la semaine dernière. Et donc je regrette, si vous voulez, que la France, au niveau des pouvoirs publics, je dirais, abandonne les efforts en faveur de la recherche nucléaire qui sont faits en abandonnant Astrid.
Félix Torres,
c'est un petit défaut français d'être un peu toujours technologique, technocratique. On a fait du plus puissant, du encore plus puissant. On a fait des 900 mégawatts, très bien. On a fait des 1200 mégawatts, l'EN4. On a fait l'EPR qui a 1750 mégawatts. Puis à un moment, on s'aperçoit que, comme vous le disiez, un réacteur très puissant, on peut pas le vendre peut-être à un pays moins développé que la Grande-Bretagne. Ça grille le réseau. Il y a un réacteur qu'on a abandonné qui s'appelait l'ATMEA, qui avait développé Areva. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser français le marché nucléaire mondial comme un marché, c'est-à-dire quels sont les besoins des utilisateurs. Peut-être ils n'ont pas absolument besoin d'un EPR, peut-être ils ont besoin d'un petit réacteur. Il faudrait un peu regarder moins notre technologie et plus les besoins des utilisateurs.
Ça n'a pas encore été visiblement compris par nos responsables politiques, ça, cette idée-là. Hein, Jacques Percebois, se mettre à la place de l'utilisateur, ça n'a pas l'air d'être complètement acquis.
Il y a des marchés, par exemple au Proche-Orient, en Afrique du Nord ou autre, les réacteurs de 1500 mégawatts, c'est trop gros. Il faut des réacteurs de 400-500 mégawatts.
On est avec
vous. Et l'échec français à Abu Dhabi a montré qu'on avait du mal à s'adapter à des contextes locaux, bref, à être de bons marchands.
Jacques Percebois, Félix Torres sont nos invités ce matin dans notre série consacrée au nucléaire. Aujourd'hui, la Chine, future leader du business des atomes. On va parler dans un très court instant du Kazakhstan.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Kazakhstan is the ninth largest country in the world, rich in natural resources reserves and the leader in uranium production. Kazakhstan's uranium concentrates meet approximately 40% of the world's nuclear power industry's requirements and are supplied to almost all countries where nuclear power plants are being operated. Kazatomprom is
voilà,
the designated
ce qu'on entend là, c'est un extrait d'une publicité de Kazatomprom, opérateur public du nucléaire au Kazakhstan, qui possède la deuxième plus grande réserve d'uranium au monde, qui est aujourd'hui le premier producteur de ce métal utilisé comme combustible dans les réacteurs des centrales nucléaires. Alors comment cette industrie contribue à son développement économique? Comment le Kazakhstan aussi utilise cette ressource pour se faire une place sur la scène internationale? On va accueillir tout de suite Adrien Fauve, qui est enseignant-chercheur en relations internationales à l'université Paris-Sud. Un spécialiste du Kazakhstan. Adrien Fauve, aujourd'hui le Kazakhstan, c'est, je le disais, le premier producteur d'uranium au monde, plus de 20 000 tonnes par an, près de 40% de la production totale. Si ce pays, Adrien Fauve, s'est hissé à la première place mondiale, c'est pas seulement le fait d'une volonté politique récente, c'est le fruit d'un très long héritage qui remonte à l'époque soviétique. Mais pour intégrer précisément le marché mondial et vendre de l'uranium, il a fallu liquider une partie de cet héritage et en particulier se débarrasser des armes nucléaires stockées sur le territoire.
Après la chute de l'Union soviétique, le Kazakhstan s'est retrouvé avec la quatrième réserve d'ogives nucléaires militaires au monde, 1400 têtes nucléaires. Donc le pays a décidé de s'en débarrasser, notamment parce qu'il n'avait pas les moyens militaires techniques de s'en occuper. Et puis c'était une façon de rentrer dans la communauté internationale de manière pacifique, en signant le traité de non-prolifération, etc. Et entre-temps, le Kazakhstan a développé d'abord une entreprise d'État, Kazatomprom, qui donc gère l'ensemble des questions nucléaires, qui a permis ensuite de former des entreprises à capitaux mixtes avec les grandes majors de l'industrie nucléaire dans le monde, en particulier donc Areva maintenant Orano, Cameco la canadienne, Toshiba la japonaise et Atomstroy Export par exemple en Russie. Et donc ces différentes joint ventures qui en général sont à 49% pour Kazatomprom et 51% pour l'autre entreprise, aujourd'hui exploitent les principaux gisements du pays.
Et à qui profite l'uranium kazakh aujourd'hui? Pour répondre à cette question, j'imagine qu'il faut regarder qui il y a derrière précisément cette entreprise Kazatomprom.
Alors, dans cette entreprise Kazatomprom, en fait, elle fait partie d'un cercle d'une bonne douzaine de grosses entreprises stratégiques au Kazakhstan qui sont rassemblées à l'intérieur d'une holding d'État qui s'appelle Samruk Kazna, qui en fait gère les actifs de l'État dans les grandes entreprises, des secteurs très importants du type industrie, transport, communication, énergie, etc. Et donc Kazatomprom est bien évidemment un des éléments importants de cette grande holding d'État.
Il faut peut-être parler un tout petit peu de politique, Adrien Fauve, si vous le voulez bien, parce que vous disiez Kazatomprom, c'est donc une entreprise d'État. Il se trouve que pendant quasiment 30 ans, de 1990 à 2019, on avait un homme, à savoir Nazarbayev, qui a tenu le pays d'une main de fer. Il disait lui-même d'ailleurs que son régime était une dictature éclairée. Alors il se trouve qu'il y a quelques mois, un peu à la surprise générale, il a passé la main à son dauphin, peut-être qu'on y reviendra. Mais est-ce qu'il faut lier la stabilité politique du pays à l'exploitation d'uranium? Pour le dire autrement, est-ce que Nazarbayev s'est maintenu pendant quasiment 3 décennies grâce aux avantages économiques, politiques, diplomatiques tirés précisément de l'exploitation d'uranium?
Vis-à-vis de l'extérieur, c'est très important. C'est aussi un vecteur d'emploi, hein, puisque aujourd'hui, Kazatomprom emploie environ 26 000 personnes, ce qui correspond au chiffre d'Areva, hein, puisque Orano, c'est 20 000 employés. Donc oui, ça joue un rôle, mais je pense que pour la question de la redistribution des revenus, etc., faire bénéficier une bonne partie des différentes couches sociales et du territoire de la rente des exportations, c'est surtout le pétrole et le gaz d'abord, certains métaux précieux, ainsi que l'uranium.
Alors, il y a aussi un paradoxe, Adrien Fauve, c'est que le pays dispose de réserves assez exceptionnelles d'uranium, deuxième réserve au monde, dit-on, et en même temps, on n'a pas de centrale nucléaire sur le territoire. Alors même qu'il y a une pénurie très importante, hein, il y a une grande partie de la population qui est tout simplement privée de courant électrique. Comment comprendre qu'on n'ait pas profité précisément de cette ressource qu'est l'uranium pour mettre sur place, installer sur place des centrales nucléaires?
Eh bien, mettre en place des centrales nucléaires, ça nécessite quand même des compétences techniques très importantes. Ça pose le problème de la sécurisation des installations. Donc, comme ils ont renoncé à leur arsenal nucléaire et qu'en plus, ils ont fermé le polygone de Semipalatinsk, parce qu'ils étaient vraiment touchés par les problèmes de pollution et donc des problèmes de santé publique et environnementaux dans l'est du pays, c'est en partie une des explications pour lesquelles on n'a pas créé de centrale. Mais aujourd'hui, il y a des discussions avec un certain nombre de pays, en particulier la Russie, mais pas seulement, comme dans l'Ouzbékistan voisin, pour éventuellement construire des centrales.
Il se trouve qu'il y a quelques semaines, en plein milieu de l'été, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est passé du côté du Kazakhstan. On a visiblement discuté un peu de l'avenir d'Orano, qui est la branche kazakh de l'ancienne Areva. Alors, on comprend assez facilement l'intérêt de la France dans tout cela, parce qu'elle a besoin de l'uranium kazakh pour faire tourner ses centrales, mais l'intérêt du Kazakhstan à conserver justement peut-être une présence française.
Bah oui, là, de ce point de vue, il est évident, hein, puisque déjà il y a la question nucléaire, mais il y en a d'autres, hein, notamment dans le secteur des transports. Il y a un certain nombre de grandes entreprises françaises ou européennes qui sont intéressés par les marchés de la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, etc., dans le pays. Et puis, il y a aussi la question de l'électricité, on en parlait tout à l'heure, et aussi celle de la gestion de l'eau, pour ne parler que de ce type de ressources, sans oublier aussi que la nécessaire diversification de l'économie, mais aussi des ressources énergétiques, nécessite de développer d'autres technologies, comme l'éolien, le solaire, etc. Et là aussi, il y a un certain nombre, sans doute, d'acteurs économiques français ou européens qui sont très intéressés. Donc ça peut expliquer ce type de voyage.
Et peut-être aussi un intérêt du côté du Kazakhstan, vous parliez de diversification économique, s'agissant du Kazakhstan, peut-être un intérêt en matière de diversification diplomatique, c'est-à-dire que c'est aussi peut-être un moyen d'échapper à une influence très très forte de la Russie, évidemment, qu'on vient d'évoquer, mais aussi de la Chine.
Oui, absolument. Le Kazakhstan a une politique étrangère qu'on qualifie souvent de multivectorielle, c'est-à-dire qu'il diversifie ses partenariats sur le plan régional et dans le monde entier. Donc là, on voit très bien que des pays comme la France ou d'autres, hein, font partie de cette forme de diversification. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, outre le passage au global de cette diplomatie, dont on voit un certain nombre quand même d'effets ces dernières années, puisque le Kazakhstan a été membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, il y a peu, c'est aussi le rapport entre le public et le privé. Les entreprises stratégiques dont on parlait tout à l'heure, qui sont réunies sous la coupe de l'État, aujourd'hui, elles sont dans une phase de privatisation partielle et donc d'entrée en bourse. Donc la fameuse entreprise dont on parlait tout à l'heure, Kazatomprom, 15% de son capital est maintenant coté à la bourse de Londres, principalement, et aussi à la bourse d'Astana. Ça me semble assez important depuis la fin de l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique d'internationalisation qui est propre au pays, et la question nucléaire, militaire ou civile, a d'ailleurs joué un rôle important dans cette dynamique, puisque typiquement, le Kazakhstan a été très influent pour faire voté à l'Assemblée générale des Nations unies une journée contre les essais nucléaires, qu'on peut donc célébrer le 29 août de chaque année. Et puis, il accueille aujourd'hui une banque de l'AIEA pour l'uranium. Donc, c'est une façon aussi de contribuer à la circulation des échanges et à la transparence dans ce domaine.
Comment est-ce que vous décryptez justement cette entrée en bourse de Kazatomprom ? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme étant l'ambition de montrer un peu plus de transparence, de lutter contre ce phénomène de corruption qui peut éventuellement entourer ce secteur-là ? C'est aussi ça ?
Je pense effectivement que... Cela doit correspondre à une volonté de montrer que le climat des affaires est en train d'évoluer dans le pays et donc d'essayer de changer de position dans les fameux classements internationaux qui sont produits par diverses agences dans le monde pour essayer de montrer quel est le climat des affaires. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est d'intensifier les connexions avec les grandes places financières mondiales, donc finalement de mondialiser l'économie du Kazakhstan à travers le fleuron justement de l'uranium. Mais il y a aussi, dans un moment de léger ralentissement économique, une volonté d'engranger des capitaux qui proviendraient de sources différentes et de mon point de vue, sur le plan néolibéral, de jouer le jeu de la privatisation des grands secteurs.
Toute dernière question, on a beaucoup parlé de questions politiques, économiques, diplomatiques, sur le volet social et environnemental, parce qu'évidemment l'exploitation d'uranium, c'est extrêmement polluant et il y a eu ces dernières années des mobilisations citoyennes pour dénoncer justement les dégâts de cette industrie. Je pense notamment aux mobilisations il y a une dizaine d'années autour des mines de Karamurun et de Muyukum Sud. Le risque environnemental et social, lequel est-il pour les autorités kazakhes aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut craindre un grand mouvement citoyen puissant contre l'exploitation de l'uranium ?
Alors, les mobilisations dans le secteur de l'énergie, elles avaient aussi lieu dans l'ouest du pays autour des champs pétrolifères. Il y en a déjà eu d'autres qui sont plutôt autour des mines d'aluminium, un petit peu plus dans le centre et le nord du pays, mais déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, sur le plan de l'uranium, ça me semble difficile à dire aujourd'hui, compte tenu des signaux que je perçois, mais... La sensibilité aux questions environnementales, elle est ancienne, puisque dès les années 80, à l'époque de la perestroïka, il y a eu tout un mouvement qui s'intitulait Nevada Semipalatinsk pour justement critiquer les essais nucléaires de l'époque soviétique. Donc je crois que de ce point de vue, il y a quand même un historique assez important. Et dans l'industrie, il y a déjà eu différentes... type de mobilisation gréviste qui était en fait des luttes sociales vis-à-vis des employeurs principalement. Donc les gisements dont vous parlez, ce sont ceux dans lesquels justement Areva est très impliqué. Donc je pense que ça mérite qu'on garde une attention particulière là-dessus.
Merci infiniment à vous, Adrien Fauve, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en relations internationales à l'Université Paris-Sud et que vous êtes auteur notamment de Bienvenue à Astana, la capitale des steppes et du monde, qui était paru aux éditions B2. Un grand merci également à nos invités. Jacques Percebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant un ouvrage collectif que vous avez écrit avec Jean-Pierre Hansen, Transition électrique, ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su vous dire, qui était paru chez Odile Jacob. Et puis pour vous, Félix Torres, Le chemin partagé, une histoire d'EDF en Chine, 1983-2011, qui était paru aux éditions Bourin. On mettra évidemment sur la page de Culture Monde les références de vos ouvrages, de vos articles et de cette belle musique chinoise de Lili Chao qui s'appelle The Nostalgic Song. Et pour l'heure, 11h52, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Un tour tour du monde qui fait escale en Allemagne aujourd'hui. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Bizarrement, Brice, les dirigeants des deux grands partis politiques allemands ont exprimé leur satisfaction au lendemain des élections régionales de dimanche dernier.
Et en effet, la CDU et le SPD ont fait connaître leur soulagement aussitôt connus les résultats des élections dans les Länder de Saxe et de Brandebourg. C'est assez paradoxal, me direz-vous. Certes, en Saxe, la CDU demeure en tête du scrutin avec 32,5% et dans le Brandebourg, le SPD se maintient à 26%. Alors, admettons qu'ils aient sauvé les meubles, parce que dans les deux cas, l'AfD effectue des bons spectaculaires. Elle obtient respectivement 28% en Saxe et 23,5% dans le Brandebourg. Alors, si les deux grands partis de gouvernement expriment ainsi leur soulagement, c'est que certains sondages donnent à l'AfD en tête dans les deux cas. Il y a deux ans, l'Alternative für Deutschland, un parti de création récente, faisait son entrée au Bundestag. Aujourd'hui, elle arrive donc en deuxième position dans une double élection régionale. On dira, pour se rassurer, c'est l'Est, l'ancienne RDA, cette ancienne Allemagne communiste d'où 3 millions de citoyens sont passés à l'Ouest depuis la réunification. La majorité étant des femmes, souvent diplômées, eh bien les hommes restés sur place se sentent humiliés et 78% d'entre eux estiment être encore considérés comme des citoyens de seconde classe. Ils cherchaient un moyen d'exprimer leur frustration, ils l'ont trouvé dans ce parti populiste anti-système, l'AfD. Mais étant donné le passé de nos voisins, toute résurgence de l'extrême droite en Allemagne est considérée dans ce pays avec une légitime suspicion. Or l'AfD est-elle d'extrême droite ? Ses dirigeants s'en défendent, mais Der Spiegel a révélé il y a seulement quelques jours que Andreas Kalbitz, par exemple, tête de liste de l'AfD dans le Brandebourg dimanche dernier, avait, par exemple, participé à un rassemblement pan-européen de néo-nazis organisé par la fameuse Aube dorée grecque en janvier 2007 à Athènes. On doute qu'il ait beaucoup changé en 12 ans. Et il constitue une preuve parmi d'autres qu'existe bel et bien au sein de la direction de l'AfD une tendance qu'on dit « völkisch ». Völkisch, ce mot intraduisible en français qui signifie à la fois « populaire » et « raciste ». Le journal du parti nazi s'appelait d'ailleurs le « Völkischer Beobachter », l'observateur völkisch. À l'heure actuelle, cette tendance au sein de l'AfD est animée par Björn Höcke. Celui-ci figure d'ailleurs en bonne place sur la liste présentée par l'AfD aux élections de Thuringe, un autre land de l'Est qui auront lieu le 27 octobre. Dans une interview publiée lundi par Libération, le sociologue allemand Matthias Quent livrait sur le succès de l'AfD un éclairage fort intéressant, ma foi. L'ex-Allemagne de l'Est, disait-il, n'a pas connu la révolte anti-autoritaire des années 60. Contrairement au Rassemblement national, par exemple, l'AfD joue peu la carte économique et sociale. Elle livre un combat sur le terrain des valeurs. Elle dénonce et combat la libéralisation des mœurs. Comme l'écrit Dalia Marine sur Project Syndicate, l'Allemagne demeure un pays avec deux cœurs.
Il existe pourtant, Brice, des causes objectives au malaise des Aussies.
Oui, le revenu par habitant des Länder de l'Est était estimé au lendemain de la réunification à près 40% de celui de ceux de l'Ouest. Dans un premier temps, le rattrapage a été sérieux grâce aux sommes énormes investies à l'Est par l'Ouest. Mais depuis, ce rattrapage se traîne et le revenu par habitant demeure en moyenne égal à 74% de celui des Wessis, les habitants de l'Ouest. Dans Der Spiegel toujours, l'éditorialiste Mathieu von Rohr écrit « L'Allemagne a été victime de son autosatisfaction, mais c'est à présent terminé. Ses succès économiques, son modèle tourné vers l'exportation, sa prudence diplomatique lui sont montés à la tête. Lors de sa fameuse tournée de départ de la Maison-Blanche, Obama avait semblé désigner la chancelière Merkel comme la meilleure pour lui succéder dans le rôle de leader du monde multipolaire, de garante de l'ordre libéral international. Eh bien, l'Allemagne tombe de haut, car ce pays ne s'est pas sérieusement préparé aux défis du futur. Son industrie est encore trop dominée par l'automobile et les machines-outils. Obsédé par l'équilibre budgétaire, il n'a pas investi dans ses infrastructures au temps des vaches grasses. Or voilà que pointe le risque de la récession. Effarouché devant toute intervention militaire extérieure, l'Allemagne n'a pas pris sa part des responsabilités qui vont avec la puissance. Notre pays, écrit toujours ce Rohr, est trop grand pour devenir une sorte de Suisse. Il doit impérativement répondre aux propositions de réforme que ne cesse de lui adresser le président français. De son côté, Jacek Rostowski, l'ancien Premier ministre polonais, a publié un texte appelant les Européens à tenir compte du rééquilibrage intervenu dans le couple franco-allemand depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La France, écrit-il, est destinée, je cite, à devenir le pivot sur lequel reposera désormais l'intégration européenne, ainsi que toute éventuelle renaissance géopolitique ou économique du bloc. Face à la perte d'autorité de la chancelière, le leadership est en train de basculer vers Paris.
Merci beaucoup, cher Brice Couturier. Et j'en profite quand même pour saluer Mélanie Chalandon, qui va nous quitter juste quelques temps pour préparer un heureux événement. On la salue. Elle nous retrouvera dans quelques semaines, quelques mois.